Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, 15 septembre 2018, nous sommes à New York, dans l'auditorium du Centre culturel du lycée français. Merci à Marc Rognon et à la directrice du Centre culturel, Pascal Richard, de nous y accueillir. Il y a 10 ans, jour pour jour, le ciel s'écroulait sur la tête des employés de la banque Lehman Brothers. Leur banque, un des piliers prestigieux de la finance américaine, incapable de faire face à ses échéances, était mise en faillite. S'en suivait une débâcle qui faillit emporter tout le système financier américain et provoqua une grave crise économique mondiale. On estime avec le recul que cette crise a fait perdre une moyenne de $70,000 de revenus à chaque citoyen américain. Depuis lors, la finance et l'économie américaine semblent pourtant s'être relevées. Le chômage est au plus bas. À Wall Street, l'indice Dow Jones bat des records et les prix de l'immobilier aussi. Le président Trump multiplie les baisses d'impôts et tente de libérer le secteur financier de toute mesure de régulation. Alors, où en est la finance américaine aujourd'hui ? Est-elle forte, saine et stable ? Quel rôle joue-t-elle dans l'économie américaine aujourd'hui ? Voilà ce dont on va parler avec les 4 invités que je vous présente maintenant. D'abord vous, Patrick Bolton, bonjour.
Bonjour.
Patrick Bolton, vous êtes professeur d'économie et de finance à la Columbia Business School, ici à New York. Et à côté de vous, un autre économiste, un autre professeur, Thomas Philippon, bonjour.
Bonjour.
Thomas Philippon, vous êtes professeur de finance, vous, à l'école de commerce Stern de la New York University. Vous y êtes depuis 2014, année où vous avez été classé par le FMI parmi l'un des 25 meilleurs jeunes économistes, ceux de moins de 45 ans de la planète. Et vous êtes, je précise aussi, membre du conseil consultatif de la Réserve fédérale de New York. Je poursuis ce premier tour de table avec vous, Jeff de Valdivia, bonjour.
Bonjour.
Jeff, vous avez longtemps occupé des postes de responsabilité au Crédit Agricole à Chicago, dès votre plus jeune âge, et ici à New York. Entre 2007 et 2010, vous avez dirigé un hedge fund pour le compte d'une filiale commune du Crédit Agricole et de la Société Générale de Banque Française. Vous avez par la suite fondé une société de conseil en investissement qui s'appelle Floris Investment Advisory. Et enfin, je termine par vous, Georges Hugeux, last but not least, le dernier mais pas le moindre. Bonjour.
Bonjour.
Georges Hugeux, vous avez aussi un parcours de banquier dans des établissements belges et français. Vous avez dirigé pendant 7 ans la branche internationale de la bourse de New York, le New York Stock Exchange, et vous dirigez aujourd'hui votre société de conseil en investissement, Galileo Global Advisors. Vous publiez d'ici quelques semaines, vers la fin de l'année, un recueil de vos chroniques sur le blog que vous éditez tous les jours, toutes les semaines, 10 ans d'errance de la finance chez Odile Jacob. On attend ce livre avec impatience. Au cours de cette émission, dernier détail, des reportages seront diffusés. Ils sont signés Ariane Gaffuri ici à New York et Anne Corpet à Détroit. Je disais il y a un instant que la faillite de Lehman Brothers avait été un très gros choc pour les salariés de la banque. Pour vous quatre aussi, Jeff de Valdivia.
J'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je pensais qu'au dernier moment, la Réserve fédérale et Paulson, qui était le US Secretary du Trésor à l'époque, allaient intervenir. Et j'y croyais pas en tant que banquier. On était au milieu de cette affaire. On savait que Lehman avait des milliers et des milliers de contreparties. Et donc, j'envisageais pas une seule seconde qu'il les laisse partir. Et je pense que ça, c'est mon opinion et elle ne vaut que ce qu'elle vaut, mais c'était plus une réaction de Paulson, à mon avis, qui était philosophique que basée sur les réalités économiques et les conséquences qu'il pouvait...
Bolton, vous, le professeur, l'universitaire...
Donc, le week-end du 15 septembre, moi, j'étais en voiture, je me souviens, je rentrais à New York, et donc, la nouvelle tombait que Lehman faisait faillite, et effectivement, c'était un choc complet, parce que le vendredi, ce dont on parlait, c'était une tentative pour sauver Lehman avec une fusion avec Bank of America. Et donc on apprend dimanche que Lehman fait faillite et que Bank of America a fusionné avec Merrill Lynch. Donc deux nouvelles complètement inattendues. Je pense que le monde externe n'était pas du tout au courant de la difficulté dans laquelle était la finance à ce moment-là.
Jean Jugeux, vous, ça a été un choc aussi pour vous? Vous y attendiez? Vous êtes assez critique de la manière dont fonctionne la finance en général?
Je dirais que nous savions, en entrant dans le week-end, le samedi et le dimanche, qu'on était devant une catastrophe. Il faut bien se rendre compte qu'en suivant les marchés la semaine qui a précédé, on a vu toute une série d'indices qui nous ont dit qu'il serait extraordinairement difficile de sauver la mise. À ce moment-là, il y avait encore Barclays, qui était possible comme repreneur, une banque britannique, qui avait omis un détail, c'est-à-dire de demander l'autorisation de son ministre des Finances, qui lui a fait savoir le dimanche après-midi qu'il n'en était pas question, en téléphonant au secrétaire au Trésor américain, en lui disant « La Grande-Bretagne ne va pas résoudre les problèmes de la finance américaine ». Et Barclays a racheté finalement les actifs de Lehman, mais après faillite.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Lehman, Thomas Philippon ?
Pas grand-chose. On a fini finalement de nettoyer les actifs. Après la faillite, il y a eu un énorme litige juridique, évidemment, parce qu'il y avait des actifs partout. Il y avait à peu près 1200 milliards d'actifs qui étaient en litige juridique. Il en reste 4 aujourd'hui, donc en gros, on a fini. Et d'ailleurs, globalement, ça a pris beaucoup de temps, mais globalement, la liquidation a été relativement efficace. Les gens ont récupéré finalement plus que ce qu'ils craignaient. De toute façon, Lehman, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le vase était plein. De toute façon, on sortait pas de cette crise sans qu'il y ait une faillite majeure. Après, la question, c'est qui tombe le premier. Et puis, une fois qu'un domino tombe, il y en a d'autres qui suivent. Le fait que Lehman était le premier, donc c'est celui dont on se rappelle, ça, c'est plus un accident de l'histoire.
Est-ce que cette crise a marqué une contraction de la finance américaine, Thomas Philippon? Est-ce qu'elle a perdu, à ce moment-là, en importance, en richesse, en
puissance? Oui, mais ça n'a pas duré très longtemps. D'un point de vue strictement américain, le système d'aujourd'hui n'est pas violemment différent du système qu'on avait avant. Il est un peu plus sain en termes d'effet de levier et d'endettement, mais il n'est pas fondamentalement différent. Donc je pense qu'il y a eu à court terme une contraction, mais par exemple concrètement, si vous regardez les salaires des gens dans la finance, ils ont baissé, mais pas plus que le salaire moyen. Donc ils n'ont pas plus souffert de la crise que les autres. L'emploi, c'est pas plus contracté en finance que dans l'industrie. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça a eu un impact, mais que court terme. Par contre, je pense que sur le moyen terme, ça a quand même précipité un pivot de la finance de l'Amérique vers l'Asie. C'est-à-dire l'endroit où la finance innove le plus aujourd'hui, c'est la Chine.
Georges Jugeux, vous vouliez réagir?
Je voulais simplement dire ceci. Nous avons tous des myopies. Le week-end du 15 septembre, c'est pas le problème de Lehman qui était à l'ordre du jour. C'était le sauvetage d'une compagnie d'assurance qui s'appelait AIG. Et celle-là ne pouvait pas être sauvé. Pourquoi? Parce que la différence entre Lehman, banque d'affaires, c'est que l'essentiel de ses contreparties étaient des institutions. Lehman n'était pas dans le secteur qu'on appelle retail, les individus. Par contre, il y avait des dizaines de millions d'assurés à AIG. Et ce qui s'est passé, c'est la collision dans laquelle, pour revenir à la description que vous avez faite, M. Paulson a dû choisir entre sauver AIG et sauver Lehman, et il a choisi de sauver AIG.
Et vous voulez dire que M. Paulson a fait œuvre de philanthropie, de générosité, en sauvant une entreprise comme AIG, dont les contreparties étaient des personnes privées qui auraient perdu beaucoup d'argent à titre personnel, alors qu'il a préféré laisser tomber une entreprise qui avait des institutions en face d'elle?
Je crois que sur le plan politique et sur le plan de ce que cela aurait représenté pour l'économie américaine, il fallait d'abord et avant tout privilégier les individus plutôt que les institutions.
Mais ça, c'est ce que vous pensez, vous. Mais est-ce que Paulson pensait ça?
Absolument. Et il l'a fait de manière tout à fait consciente.
Jeff de Valdivia, la finance américaine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente?
Écoutez, j'ajouterai un petit peu à ce qu'a dit
Thomas Philippon.
Thomas Philippon, au niveau des capitalisations boursières, si vous voulez, si vous regardez le poids que pesaient les banques et le secteur financier avant la crise dans le S&P 500, donc l'indice boursier, ça se situait à peu près à 10% de la capitalisation totale. Et on est quand même à 6% aujourd'hui. Donc le poids, c'est une mesure qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle reflète assez bien l'évolution du secteur depuis.
Patrick Bolton, la finance donc a perdu en poids dans l'économie américaine, elle pèse moins, elle représente moins par rapport à la richesse générale produite?
Donc moi je crois qu'il faut aller à l'intérieur de ce qu'on entend par la finance. il y a eu des transformations de fond à l'intérieur de la finance depuis la crise. Alors, des institutions comme Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, qu'on appelle broker-dealers.
Ce sont des banques d'investissement.
Des banques d'investissement. Ce modèle n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les grandes banques d'investissement aujourd'hui sont des banques qui sont accréditées comme bank holding companies. C'est-à-dire qu'elles ont accès au financement par la Fed, elles sont réglementées, et donc ce modèle a disparu. Donc ça, c'est la première grande transformation. La deuxième grande transformation, quand on regarde les grandes banques commerciales comme JP Morgan Chase ou Citi, quand on agrège les actifs dans ce secteur, eh bien, c'est aujourd'hui, ça représente moins que les actifs qui sont gérés par BlackRock et Vanguard. C'est-à-dire que les gestionnaires d'actifs sont devenus plus importants que les banques commerciales.
Alors, quelle est la différence entre ces deux catégories d'institutions, entre les gérants d'actifs et les banques? Quelle est la différence?
Donc, un gestionnaire d'actifs n'a pas de compte courant, n'est pas une banque.
Il ne peut pas prêter d'argent.
Simplement, gère les actions, les obligations des épargnants, des clients.
Les pensions de retraite, ce genre de choses.
Les pensions de retraite sont
qui sont placées sur les marchés boursiers. Thomas Philippon, c'est un changement majeur, ça?
C'est un changement important, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement la manière dont la finance fonctionne. Ça correspond à plein. Il y a plein de paramètres derrière ça. Je suis d'accord qu'il y a un impact. Les banques étaient surévaluées avant la crise, parce que on avait sous-estimé leur risque. Donc forcément, leur capitalisation boursière était en fonction du risque perçu à l'époque, qui était sous-évalué. Donc elles étaient surévaluées elles-mêmes. Donc maintenant, elles sont revenues à un niveau qui correspond à peu près à leur part dans le PIB. Donc ça me paraît pas totalement déraisonnable. Non. Ensuite, c'est vrai que à l'intérieur de la finance, la manière dont l'argent passe dans la tuyauterie a un peu changé. C'est-à-dire qu'il y a l'importance relative des banques, c'est-à-dire on met un dépôt dans une banque et la banque de son autre côté fait des prêts. Ça, c'est devenu relativement moins important par rapport à deux autres types d'acteurs. Les gros investisseurs qui gèrent l'argent de leurs clients, donc BlackRock, Fidelity, Vanguard. La grosse différence là, c'est qu'eux n'ont pas d'effet de levier. C'est-à-dire, ils vous garantissent rien du tout, vous mettez votre argent et dedans, ils vous le placent pour vous. Donc eux, ils sont devenus relativement plus importants. Et les banques d'affaires qui existaient avant la crise ont juste été remplacées par d'autres acteurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce qu'on appelle private equity. Donc c'est Blackstone ou ces entreprises-là, ou les hedge funds, qui ont remplacé dans un certain nombre d'activités ce que faisaient les banques d'affaires de l'époque. Donc il y a eu des transferts intérieurs. Et globalement, si on regarde le système dans son ensemble, il y a moins d'effets de levier. Donc il est plus stable, ça je pense que ça reste vrai. Mais je ne pense pas qu'il a fondamentalement changé.
Est-ce que ça veut dire que le secteur financier a totalement récupéré la crise de 2008, Patrick Bolton?
Le système financier américain se porte bien aujourd'hui.
Alors, des sommes considérables ont été consacrées par l'État américain en renflouement des entreprises, on a parlé d'AIG tout à l'heure. C'est des sommes qui ont été remboursées, l'État a récupéré, Georges Jugeux?
Récupérer avec des bénéfices. Il y a encore un secteur qui, pour le moment, continue à m'inquiéter, qui sont des agences fédérales, qui, pour le moment, se trouvent dans une situation où le gouvernement s'est tellement bien repayé qu'elles n'ont plus de fonds propres. Mais elles ont des actifs considérables.
Ces agences, c'est quoi?
C'est Fannie Mae et Freddie Mac. Exactement, qui est un problème qui n'est pas résolu. Mais en dehors de ce problème-là, le gouvernement américain n'a pas perdu d'argent dans son intervention. Et je crois que c'est très important de comprendre, parce qu'au moment où l'intervention se fait, le contribuable a l'impression qu'on lui enlève ses actifs. La réalité, c'est que, et c'est un rôle du gouvernement, il fait un arbitrage dans le temps, et il se dit, vous n'allez pas résoudre le problème maintenant, je vais vous aider, et dans 2-3 ans, vous allez nous rembourser. Il y a même un cas tout à fait étonnant. Le patron d'AIG a poursuivi le gouvernement américain parce qu'il avait fait trop de profits en sauvant AIG. Et le gouvernement américain avait mis 180 milliards de dollars pour sauver AIG. Non, il a été viré par le juge. Mais parce que c'était vraiment scandaleux.
Heureusement, Thomas Philippon.
Ouais. Oui, heureusement. Bah, il était en partie responsable de l'écrasement en race campagne de son entreprise et après il va se plaindre parce qu'on l'a sauvé et en la sauvant on l'a pas été assez gentil avec lui. Donc, faut pas non plus exagérer, quoi.
Alors c'était Codicier Co d'ailleurs sur RFI. Nous parlons au lycée français de New York de la finance américaine, 10 ans après la chute de Lehman Brothers. 4 invités autour de ce micro, Thomas Philippon et Patrick Bolton, tous les deux professeurs d'université, et 2 banquiers, Georges Hugeux et Jeff de Valdivia. Le Congrès avait voté la loi Dodd-Frank en 2009 qui tentait de réguler le fonctionnement de la finance. Au mois de mai dernier, Donald Trump a promulgué une nouvelle loi qui s'appelle une loi de croissance économique. Est-ce qu'il reste un tant soit peu de cette régulation qui était créée par Dodd-Frank et d'autres textes, Patrick Bolton?
Oui, tout à fait. L'essentiel de Dodd-Frank reste en place. Il y a eu, pour l'instant, des ajustements marginaux. D'abord dans la manière dont les lois et les réglementations sont implémentées. Il y a eu un petit relâchement depuis l'élection de Donald Trump. Et récemment, il y a eu un petit changement dans l'application de ce qu'on appelle la Volcker Rule, qui empêche les banques...
Paul Volcker, c'est un ancien gouverneur de la Réserve fédérale.
Qui empêche les banques de spéculer avec leurs fonds propres. Mais c'est un ajustement marginal. Ce qu'on appelait les prop desks, qui étaient très importants avant la crise, ont disparu. Il n'y a pas de prop desk.
Quand je vous entends tous les quatre, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tout va bien, il n'y a plus de problème. La crise de 2008 a assaini les fondamentaux, les fondements.
Certainement pas. Il y a une chose, vraiment juste une observation qui nous dit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de la crise. Il faut regarder les taux d'intérêt de long terme. C'est les marchés qui nous le disent. Les taux d'intérêt de long terme, par exemple en Europe, le taux d'intérêt de long terme de l'Allemagne, c'est zéro. Le taux d'intérêt nominal. Le taux d'intérêt nominal au Japon, c'est zéro. Le taux d'intérêt nominal aux États-Unis, c'est proche de 3%, avec une inflation qui est prévue à autour de 2,5%. Donc les taux d'intérêt de long terme sont historiquement très très bas, alors que le niveau d'endettement des gouvernements a explosé. La dette du gouvernement américain par rapport au produit national brut, c'est plus de 100% aujourd'hui. Ça résume l'état, c'est le signal que nous envoient les marchés financiers. On n'est pas encore sorti de la crise.
Thomas Philippon ?
Non, mais je pense qu'il y a 2 choses très différentes. Est-ce que les risques qu'on a vu se matérialiser en 2008 ont été pris en compte et est-ce qu'on a amélioré le système dans cette dimension-là ? La réponse est oui. Si on devait refaire la même pièce et on serait meilleur pour sortir de la crise qui a eu lieu il y a 10 ans. C'est un peu la moindre des choses.
Vous avez tous expliqué qu'on avait changé les acteurs, donc.
Non, mais ça ne veut pas dire que la prochaine crise sera la même. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on a pris en compte ce qui s'était passé et on a réparé les parties du système qui avaient cassé à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que la prochaine crise sera similaire. Donc on a aussi créé de nouveaux acteurs qui pourraient être plus fragiles et on a de nouveaux problèmes qui se posent qui ne sont pas les mêmes que ceux il y a 10 ans. Donc ça ne veut pas dire que les risques sont disparus.
Oui, en fait, la baisse des taux, si vous voulez, massive qui a eu lieu après la crise...
Ce qu'on appelait le quantitative easing ou le...
Oui, le quantitative easing.
L'assouplissement quantitatif.
Toute cette politique.
Le fait que la réserve fédérale mette des milliards et des milliards sur le marché.
Tout ça, ça a augmenté l'endettement, évidemment. Et ça a créé aussi... C'est du vent derrière pour les marchés actions, si vous voulez. Ça veut dire que sur les 10 dernières années, vous avez eu un taux moyen de rendement sur le S&P, le 500, de entre 7 et 10%, je ne sais plus. Mmh. C'est incroyable. Alors que les savers, les petits épargnants, si vous voulez, ont touché 0 ou 1%. Donc il y a tous ces problèmes sociaux et fondamentaux qui n'ont pas été réglés, en fait, qui sont exacerbés depuis la crise. Alors ça créera peut-être pas une crise financière, mais une crise politique, on la voit déjà. À mon avis, il y a un lien direct entre la crise de 2008 et le populisme, le nativisme de Trump.
Ce dont vous parlez, ce sont c'est des inégalités.
Ah oui, oui, oui. Ah, mais les inégalités, à mon sens, encore une fois, c'est à titre personnel. Moi, j'habite ici depuis 35 ans, donc pour moi, ça a démarré avec les politiques de Reagan. Qui ont joué un rôle très important pour l'économie, très positif par bien des côtés, et qui ont en fait calcifié la mobilité sociale aux États-Unis en rémunérant le capital beaucoup mieux que que le travail sur à peu près 30-35 heures. Alors, en tant que banquier, j'avais un peu du mal à tenir ces propos dans les années 2000, mais ça explique ma décision personnelle de quitter l'industrie bancaire et d'aller vers la gestion. Je m'y sentais pas bien du tout. Et ça, je pense que fondamentalement, ça n'a pas vraiment changé. Au contraire, avec les politiques fiscales de Trump, si vous voulez, elles ossifient, elles calcifient cet état de fait qui a des conséquences politiques majeures, à mon sens.
On va aller voir ces Américains qui souffrent, qui ont subi la crise. Entre 2006 et 2016, plus de 10 millions d'Américains ont perdu leur maison, leur résidence, pour laquelle souvent ils s'étaient beaucoup endettés. Aujourd'hui, même si le nombre de saisies a diminué, il y en a encore beaucoup. Et à New York, ici, un petit groupe de propriétaires malchanceux, les Foreclosure Resisters, se sont réunis en association. Ils tentent de résister aux saisies immobilières. Il faut savoir que dans l'État de New York, une banque qui veut reprendre le bien d'une personne qui n'arrive plus à rembourser son emprunt doit passer par la justice. C'est un reportage Éco-d'ici-Éco d'ailleurs, signé Ariane Gaffuri.
J'ai travaillé pour JP Morgan Chase pendant 15 ans. C'est pour ça que je porte cette chemise.
Ken Stevens, la quarantaine, montre du doigt l'inscription de la banque JP Morgan cousue sur sa manche. Comme beaucoup d'autres, en 2008, lors de la crise financière, il a perdu son travail.
J'étais analyste immobilier. J'ai obtenu un prêt hypothécaire de la banque. J'ai prévenu que j'aurais un retard de paiement. Ils m'ont répondu, Ken Stevens, vous avez deux paiements en retard. Nous allons donc entamer une procédure de saisie. J'ai essayé de leur parler. Je suis allé à une première séance de conciliation, puis à 17 autres avec eux, en vain. Jusqu'au jour où j'ai reçu la décision du juge. La saisie était annulée parce que JP Morgan avait dépassé les délais légaux. Et donc, ils ont redéposé plainte et je repars à la caisse départ.
Et là, vous êtes toujours dans votre maison ?
Je suis toujours dans ma maison et je continue le combat. Et je les aurai.
Michael Smith, un autre propriétaire, a été beaucoup moins chanceux que Ken Stevens.
Ma famille et moi, nous avons acheté notre maison dans le Bronx. Je passe parfois devant et je ne peux même pas la regarder. C'était une maison victorienne et la toiture, un mélange de style français aussi. Et même si je l'ai perdue, je continue le combat parce qu'il y a des lois et elles doivent être respectées. Les banques se croient au-dessus des lois. Ma maison a été saisie illégalement et je n'ai rien pu faire à l'époque. J'étais ignorant. Et si j'avais su, j'aurais pu gagner du temps pour arrêter la saisie. Mais ils sont venus et ils l'ont prise sur le champ.
Aujourd'hui, Michael Smith et sa famille sont locataires dans le Bronx. C'est un des quartiers de New York les plus touchés par les saisies immobilières.
En pleine crise financière, il y a eu jusqu'à 95 000 cas de saisies immobilières dans l'État de New York. C'est ahurissant.
Jacob Inwald est avocat et directeur du service des saisies immobilières de l'organisation gouvernementale Legal Services à New York.
Et aujourd'hui, même s'il y en a moins, il en reste encore 75 000 en attente de jugement. Les personnes de couleur, les Noirs et les Latino-Américains, ont été la cible des prêts les plus toxiques du marché parce que ces personnes sont vulnérables. Depuis, des lois ont été votées à New York pour protéger ces propriétaires. Le tribunal essaye par exemple d'obtenir une baisse du montant du remboursement mensuel ou de rallonger la durée de l'emprunt. Mais parvenir à de tels accords est un combat long et fastidieux. Nous considérons qu'on est toujours en pleine crise parce que nous avons un nombre de saisies records comparable à ce que nous avons connu lors de la Grande Dépression des années 30.
Un reportage signé Ariane Gaffuri dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Nous sommes au lycée français de New York, dans le centre culturel de ce lycée, 10 ans après la chute de la banque Lehman Brothers. 4 invités autour de ce micro, les professeurs Thomas Philippon et Patrick Bolton, les banquiers Georges Hugeux et Jeff de Valdivia. Thomas Philippon, je vous voyais griffonner quelques notes. Ça avait rapport à ce reportage, à ce que vous entendiez ?
C'est ça le fondement de la crise. C'est-à-dire, Lehman Brothers, c'est vraiment c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en plus, on parle du vase de la finance, qui était un peu comme un château de cartes construit sur le vrai problème qui était le marché immobilier. Donc la crise en elle-même, la partie financière de la crise, c'est la partie la plus visible. Mais la vraie crise qui affecte les gens, c'est la crise immobilière. Et là, pour le coup, les effets sont totalement durables. C'est-à-dire, les gens qui ont perdu leur maison, ils sont encore très en dessous en termes de revenus, de qualité de vie, de là où ils étaient avant. Les États où les États américains, où il y a eu des bulles immobilières, sont encore largement en dessous en termes de revenus par habitant de, par rapport aux autres États d'avant.
Ce sont surtout les États du Sud.
Non, alors oui, en général, c'était là où il y avait du soleil, parce que les bulles, c'était des gens qui voulaient acheter dans les endroits où c'est sympa de vivre, donc la Californie, le Nevada, la Floride, plus que le Dakota du Nord. Ouais. Mais ça, ces effets-là sont totalement parmi nous. Donc ça, c'est au niveau des États. Et si vous voulez, au niveau des ménages, ce qui se passe, c'est que plus on est pauvre et plus l'immobilier est une part importante des actifs. Donc les gens qui sont dans les classes moyennes inférieures, leur actif principal sur leur maison, ils n'ont pas beaucoup d'autres actifs financiers. Et ces gens-là ont plus perdu dans la crise que ceux qui avaient plus d'argent et dont ils avaient aussi une maison, mais d'autres actifs à côté qui, eux, pour le coup, comme Jeff le disait avant, les actifs financiers, ils ont eu 10 ans de croissance folle. Donc ça veut dire que les gens qui avaient de l'argent dans le marché financier, ils ont récupéré leurs billes sans problème. Par contre, ceux qui avaient tout leur argent dans leur maison, l'ont pas forcément parce que les prix ont baissé, et d'autres en plus, de toute façon, ils ont perdu leur maison entre-temps. Donc ça, c'est le vrai nœud de la crise. Et je pense que ça, c'est un problème d'ailleurs assez spécifiquement américain. Et très paradoxal, parce que, juste pour rebondir sur ce que Georges disait avant, les agences américaines dont il avait peur, les agences parapubliques qui s'occupent du marché financier. Il faut bien rendre compte que le marché immobilier américain, c'est socialiste. C'est l'État qui gère tout. C'est l'État qui... En Europe, ça nous paraît délirant, mais en Europe, on a un marché le marché immobilier, qu'on prenait un prêt chez votre banque, c'est privé, c'est la banque qui se débrouille, puis vous faites une transaction entre adultes. Aux États-Unis, c'est le socialisme total, c'est l'État qui garantit tout.
Alors ça, oui,
effectivement, c'est...
Si à l'extérieur on vous entend, ben il y a des gens qui vont hurler.
Ben, c'est vrai que c'est complètement vrai.
Georges Jugeux, c'est vrai ?
Je crois que 90% des crédits hypothécaires sont regarantis par les deux agences fédérales dont j'ai parlé. Donc, on ne peut pas non plus les laisser tomber, parce qu'à ce moment-là, les banques vont devoir se poser des questions. Maintenant, elles ont envie d'en reprendre, entre parenthèses. Elles ont envie de prendre du risque. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, 10 ans après la crise, l'appauvrissement des pauvres et l'enrichissement des riches, l'écart s'est accru, et considérablement. Et ce que Thomas Philippon dit, et ce sur lequel je me sens totalement en ligne, c'est que comme nous allons effectivement avoir une crise de l'endettement dans les prochaines 2-3 ans, quelque chose comme ça, qui va être beaucoup plus importante que l'affaire de Lehman, nous allons nous trouver dans une situation où, fondamentalement, on va avoir un drame social. C'est quand même étonnant que JP Morgan ait publié il y a 2 semaines une étude dans laquelle elle dit la correction des marchés, c'est pour la deuxième partie de 2019, et il faut s'attendre à des remous sociaux. Et on parle des États-Unis. Donc le problème, c'est que, et c'est l'énorme danger de l'administration actuelle, c'est qu'à force de tirer en faveur des riches, à force de tirer en faveur des entreprises, la situation de précarité du citoyen moyen s'accroît, et vous ne savez pas quand, à un moment donné, ça va exploser.
Patrick Bolton, vous portez le même regard sur ces gens qu'on entendait, ces foreclosure resisters, cette tension sociale ?
Tout à fait. Et je voudrais renforcer les deux points de vue qu'on vient d'entendre. À mon avis, la manière dont la crise immobilière a été géré politiquement aux États-Unis, c'est là où la plus grande erreur politique a été commise. Et ça, c'est sous l'administration Obama. Quand on compare la manière dont la crise immobilière a été gérée au moment de la grande crise de 1929, on est intervenu pour sauver les emprunteurs qui ne pouvaient plus rembourser leurs prêts. De manière beaucoup plus massive, de manière, surtout en comparaison de la manière dont on est intervenu pour sauver les banques. On est moins intervenu pour sauver les banques à la crise de 29 que pour sauver les particuliers qui ne pouvaient plus rembourser leurs prêts immobiliers. Quand on regarde la crise de 2007-2009, c'est l'inverse. Donc comme on a entendu tout à l'heure, on est intervenu pour sauver les banques, de manière très profitable d'ailleurs. Mais quand la décision politique est tombé, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les propriétaires qui avaient emprunté, qui ne pouvaient plus rembourser, pour éviter les foreclosures, tout ce qu'on vient d'entendre, la décision du gouvernement Obama a été de ne rien faire.
Donc Obama,
rien faire.
C'est sous l'administration Obama, mais vous aviez déjà un parti républicain qui contrôlait le Congrès à partir de 2010.
Non. C'est la première moitié du premier mandat Obama. La décision politique a été prise
de ne pas intervenir pour sauver les gens qui, à ce moment-là, n'arrivaient plus
à rembourser.
C'était un choix politique et c'est la plus mauvaise décision de l'administration Obama. C'est pour ça qu'on a Trump aujourd'hui. Si l'administration Obama avait décidé d'intervenir aussi agressivement qu'elle l'a fait pour les banques, pour les particuliers, on n'aurait pas Donald Trump aujourd'hui.
Mais alors, quand votre voisin et collègue Thomas Philippon décrit un système financier qui est socialiste, je reprends son terme, vous, comment vous réagissez? Parce que il y a une contradiction entre, d'un côté, un système financier socialiste, mais qui sauve les banques, et un système financier, entre guillemets, socialiste, qui laisse tomber les plus modestes.
Effectivement, un vrai système socialiste ne laisserait pas tomber les plus modestes. C'est un système socialiste pour les banques qui prêtent. Voilà. C'est du socialisme bancaire.
Toutes ces agences dont Georges a parlé, c'est des agences qui facilitent le prêt, qui permet l'accession à la propriété, si vous voulez. Donc, en ce sens, c'est socialiste, en ce sens, c'est du social. Mais c'est bien le seul secteur que je connaisse qui aille dans ce sens, parce que une des grosses raisons, à mon sens, un des paramètres, peut-être pas une des raisons de la crise, c'est ce qu'on appelle en anglais le misalignment of interest, c'est les intérêts économiques des intervenants qui sont pas alignés et qui ne le sont toujours pas.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que quand vous êtes banquier et que vous faites un credit default swap ou un crédit dérivé, un produit collatéralisé, ce qui vous intéresse, c'est de le placer auprès d'un tiers, parce que vous allez faire une commission, parce que votre bonus va être basé là-dessus, et votre patron, qui est censé être le patron de la banque et qui est censé diriger le comité de crédit, va avoir une partie de sa compensation qui va dépendre de la profitabilité de votre secteur. Donc, en fait, l'incentive, la motivation économique, si vous voulez, elle est alignée en faveur du banquier dans cet exemple. Et le bien sociétal, si vous voulez, s'il y en a un, les effets pervers, est-ce que le gars qui achète mon produit collatéralisé connaît la moitié du tiers du risque qu'il est en train de prendre? Je peux vous dire que moi, j'ai assisté à des meetings où les gars ne comprenaient rien à ce qu'ils achetaient. Mais l'incentive, donc la motivation économique du banquier, c'était de vendre le produit, de faire des pirouettes mathématiques et financières.
C'est récent?
Non, c'était, mais ça continue dans un autre domaine. Trump, par exemple, qu'est-ce qui vient de passer? Dans le domaine qui est le mien, qui est la gestion patrimoniale, ils sont en train de détricoter la réglementation que l'administration Obama mettait en place, qui imposait une obligation fiduciaire, donc une responsabilité légale des intervenants comme moi, qui sont des gestionnaires de patrimoine, quand ils gèrent le patrimoine retraite de leurs clients. La banque, le secteur de Wall Street, si vous voulez, tous les brokers, tous les courtiers s'opposent massivement et réussissent maintenant à diminuer les effets de ces lois qui vont dans le bon sens, qui vont dans un sens de protection sociale. Et protection sociale nécessaire, c'est pas du socialisme, ça. C'est, les Américains n'ont pas de retraite, c'est eux qui se la font pour l'essentiel, ils mettent de l'argent de côté. Donc si vous avez un acteur financier, un banquier ou un private banker, comme on les appelle, un gestionnaire de fonds qui a un incentive, qui a une motivation économique qui ne va pas dans le sens des intérêts de son client, on a un problème social grave. Si vous dites, dans le Wall Street Journal ou dans le New York Times, je laisserai parler tout le monde, mais il y a un exemple encore il y a une semaine, dans le New York Times, JP Morgan Securities, qui faisait tourner un compte de retraite d'une personne âgée d'environ 85 ans. La fille de ce monsieur s'en est rendu compte, les a poursuivis, il y a eu un settlement comme ça. Mais c'est des choses inacceptables, mais qui sont acceptées par le système. JP Morgan, évidemment, est au courant, puisque c'est la base fondamentale sur laquelle sa banque privée fonctionne. Et c'est ça, quand je parle de misalignment, de non-alignement des intérêts, c'est ça que j'évoque.
Georges Jugeux.
Le système est le suivant. Vous ne payez plus, vous devez quitter la maison, vous n'avez plus de dette. La banque s'est payée sur le jeu. Vous n'avez plus de dette. Vous ne pouvez pas louer votre maison. Vous ne pouvez pas faire un arrangement avec la banque. Ça, c'est la grande différence. Parce que votre dette a disparu, vous n'avez plus de relation avec la banque a votre maison, et c'est terminé. En Europe,
vous continuez à avoir la dette même si une partie de votre maison était vendue, ce qui crée un incitant, et je reviens exactement à ce que vous dites, c'est un incitant fondamental pour les banques européennes de tâcher de résoudre le problème du crédit du client et pas uniquement la liquidation immobilière. Et c'est là que se trouve toute la différence et la raison pour laquelle, alors qu'il y a eu des problèmes en Europe, le particulier, le détenteur d'un crédit hypothécaire n'a absolument pas souffert de ce dont a souffert l'Américain.
On va aller voir un autre exemple de crise immobilière, de ce qui s'est passé ici aux États-Unis, mais à Détroit. La ville a été frappée en plein cœur il y a 10 ans, parsemée de maisons abandonnées et de friches industrielles en ruine. Détroit, sinistrée, a perdu près des 2/3 de sa population. Mais depuis 5 ans, le berceau de l'industrie automobile américaine renaît de ses cendres. Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Anne Corpet.
Le centre-ville de Détroit, autrefois sinistre et déserté, aligne aujourd'hui des façades rutilantes. Les derniers immeubles à rénover sont en travaux. Ici, la crise des subprimes est un souvenir lointain. Henri Brisch achève sa thèse sur le déclin et la renaissance de Détroit.
La crise des subprimes, ça a surtout frappé les quartiers résidentiels de classe moyenne. C'est surtout ces quartiers-là qui ont vraiment souffert de la crise. Le centre-ville, pas tant, parce que ça n'allait pas vraiment bien de toute façon. Et il y avait peu d'investissements, donc ça n'a pas tant affecté le centre-ville. J'irais même plus que les valeurs immobilières étaient tellement faibles en 2010 que c'était très facile de pouvoir acheter des immeubles entiers pour des promoteurs immobiliers dans le centre-ville.
Des étals de pommes du Michigan, de maïs, d'herbes aromatiques attirent chaque semaine des milliers de clients à Eastern Market. C'est là qu'en 2011, le français Jérôme Huez a ouvert son agence immobilière. À l'époque, les saisies de maisons étaient quotidiennes.
Le prix des appartements à Détroit était descendu à 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $. Maintenant, ces appartements valent 10 fois plus cher. J'ai des clients français qui sont venus à ce moment-là, en 2011-2012, qui avaient des revenus modestes, qui ont investi et qui sont maintenant millionnaires ici aux États-Unis. En 2008, ça a interrompu une vague de développement où on voyait le marché immobilier repartir, l'activité de la ville repartir, et puis ça s'est écroulé et on se disait on va revenir au même niveau où là on était en 2006-2007. Mais le développement immobilier est peut-être 10 fois plus important maintenant qu'il était en 2006. On est peut-être 2 fois plus cher maintenant qu'on était en 2006, avant la crise. Il y aura probablement une correction économique cette année, l'année prochaine, mais on sait que la dynamique qu'il y a à Détroit, les fondamentaux, nous feront passer au travers de cette crise et on ne va pas s'écrouler comme on s'était écroulé la dernière crise.
Diane Filet nous accueille chez elle, à l'autre bout de la ville, plein ouest, derrière la gare centrale. Un bâtiment qui, depuis sa fermeture dans les années 80, incarnait la décrépitude de Détroit. Mais la vieille dame, comme on l'appelle ici, a été rachetée par Ford, qui entend y installer un nouveau quartier général. Diane Filet craint que la rénovation de la gare ne fasse exploser son loyer.
En tant que locataire, je crains le pire. Les prix ont déjà augmenté de 20%. Dans les immeubles du centre-ville où vivaient beaucoup de retraités, ils ont donné 1 an aux gens pour partir. Et ensuite, les immeubles ont été complètement rénovés. Et maintenant, les loyers atteignent 1 300 $ par mois. Mais où vont vivre les personnes âgées? C'est tout le problème.
À Détroit, les habitants ont longtemps été propriétaires de leur logement. Cela n'est plus le cas pour 54% de la population. Et depuis la banlieue, encore parsemée de maisons en ruine et de prairies urbaines, la nouvelle atmosphère cossue du centre-ville paraît inaccessible.
Un reportage signé Anne Corpet dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Je signale que vous pouvez retrouver plus longuement la ville de Détroit et ses habitants dans le grand reportage d'Anne Corpet qui sera diffusé sur les antennes de RFI la semaine prochaine, mardi 18 septembre. Patrick Bolton, ce promoteur immobilier français installé à Détroit, il voit la vie en rose ou comment vous entendez ce qu'il dit?
Il profite de la bonne politique économique de Obama au Michigan. Obama a sauvé l'industrie automobile qui se trouve à Détroit. Ça a permis de relancer l'économie du Michigan. Et Détroit profite de ça. Détroit, historiquement, le problème de la ville vient des relations raciales aux États-Unis. Détroit a été vidé de sa population à cause du phénomène de ce qu'on appelle le white flight,
Le départ des Blancs.
Le départ des Blancs. Donc les Blancs sont partis de la ville, ont quitté Détroit pour aller dans les banlieues. Et donc toute la base fiscale qui permettait à la ville de fonctionner a disparu. Et donc des services que on trouve normaux partout en France, tels que l'eau, l'électricité, le service des poubelles, tout ça a été effrité, ça a disparu. La criminalité a fortement augmenté, et c'est ça l'histoire de Détroit. Là, on revient un petit peu sur ce phénomène dans le centre-ville de Détroit, mais il y a une grande partie de Détroit où ça reste comme avant.
C'est totalement sinistré, vous
totalement
voulez dire
sinistré.
Thomas Philippon, c'est un problème spécifique à Détroit, ce qui est décrit dans ce reportage d'Anne Corpé.
La partie c'est plus extrême à Détroit que dans d'autres villes, mais l'impact du changement industriel aux États-Unis sur les 20 dernières années où l'industrie traditionnelle a beaucoup perdu d'emplois, ça c'est un phénomène global sur l'ensemble du pays qui se ressent plus fortement à Détroit. Mais on voit aussi le problème de leur marché immobilier, c'est-à-dire qu'ils construisent tout sur la dynamique du prix des maisons. C'est-à-dire qu'ils ont le modèle, c'est si les prix des maisons augmentent, tout va bien, et quand les prix des maisons baissent, tout va mal. C'est pas un modèle très sain. Donc tant mieux pour eux en ce moment, je veux dire, je suis ravi pour eux, mais c'est quand même pas un modèle très sain pour le long terme.
Le prix des résidences, des constructions atteint des sommets en ce moment. Est-ce que c'est une nouvelle bulle immobilière qui est sur des fondements sains ou malsains, Jeff de Valdivia?
Écoutez, moi, pour me préparer un petit peu à cette émission, j'ai regardé la moyenne des prix aux États-Unis est revenue sur les plus hauts de 2005-2006. Ça, c'est la moyenne américaine. Si vous voulez, il y a des disparités énormes de région à région. Thomas en parlait. Si vous êtes en Floride, certains coins, je suis sûr, n'ont pas retrouvé leur argent. En Nevada, c'est la même chose. On est revenu quand même sur des niveaux.
Mais est-ce que c'est la prochaine crise ou est-ce que...
Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. La prochaine crise, je sais pas où elle sera. Hein. Aucun d'entre nous ne peut le dire. Mais
si, votre voisin, Georges Sujet, il sait.
Moi, je ferai attention.
C'est la crise de la dette.
Moi, je ferai la dette.
Il a même précisé le mois.
Je dirais la dette des étudiants, hein, américains.
Oui, la dette des étudiants.
C'est énorme. En anglais, on dit trillion. Je crois qu'en français, on dit billions.
Milliards de milliards.
Donc, c'est la moitié, si vous voulez, du PIB de la France. Avec la plupart des jeunes qui sortent des universités, entre 50 000 et 100 000 dollars de dette, c'est énorme. Et dans un marché de l'emploi qui est pas très favorable pour beaucoup de ces jeunes, ça va être très difficile de s'en sortir.
Mais
comment est-ce que ce sera une crise, j'en sais rien.
Patrick Bolton, comment est-ce que cette difficulté qu'ont les étudiants à rembourser se peut se transformer en crise pour le système financier?
Il faut regarder qui détient cette dette.
Bon, c'est tout garanti par l'État.
Oui.
Il n'y a pas de risque privé, non. C'est un risque fiscal.
Donc c'est un risque budgétaire.
Ouais. Mais donc c'est lié au problème dont parlait Patrick
Bolton.
Oui. Dont parlait Patrick. Quand vous avez un problème fiscal qui est en train de se développer, budgétaire qui est en train de se développer avec des taux d'intérêt à 1 ou 2%, c'est une chose. Quand les taux d'intérêt montent à 4, 5%, c'est autre chose. Et à un moment, on va y arriver. Si l'inflation continue, si la Réserve fédérale continue à monter les taux comme c'est prévu, moi, je suis incapable de vous dire où ça va nous mener, mais la situation va être plus difficile. De là à ce qu'elle amène à une crise, je n'en sais absolument rien, mais elle sera plus compliquée à gérer.
Georges Hugeux, vous pensez que cette affaire de l'endettement des étudiants est une menace pour la stabilité budgétaire américaine?
Le montant étant ce qu'il est, par rapport aux 21,5 milliards de dettes du gouvernement américain, c'est une goutte d'eau.
Milliers de milliards. C'est une goutte d'eau.
Le véritable.
Mais tout à l'heure, on a dit que la chute de Lehman Brothers avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Alors, il y a des gouttes d'eau.
Ce n'est pas. Personne ne sait aujourd'hui quel va être l'élément déclencheur. La réalité, c'est que ce que nous venons de vivre, c'est que, à travers notamment les conséquences de la politique des banques centrales, les États se sont endettés dans des proportions invraisemblables. D'accord? Nous sommes sur des pourcentages du produit national brut qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et mon problème, ce n'est pas de m'amuser à chercher des pourcentages du PIB, le problème, c'est le budget. Or, nous sommes dans une phase de hausse des taux d'intérêt. Ce qui veut dire que le déficit budgétaire américain va atteindre 1 trillion, donc 1 000 milliards
de dollars l'année prochaine. C'est la Maison-Blanche qui le dit. Donc, on est occupé à glisser complètement dans une situation où, à un moment donné, le problème va être, les États sont-ils en mesure de rembourser leurs propres dettes? Alors, effectivement, l'élément du financement immobilier, l'élément du financement des étudiants, mais aussi toute une série d'autres éléments, et particulièrement ce que nous dépensons en matière de défense, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face, va à un moment donné se rencontrer et nous allons avoir une collision. Alors le problème, c'est que nous ne sommes plus du tout occupés à parler d'un problème comme Lehman, qui est un problème, excusez-moi, de quelques centaines de milliards. Nous sommes occupés à parler de dizaines de billions. Donc plus aucune banque centrale ne peut faire face. Et c'est là que, pour le moment, se trouve mon inquiétude. Et je dis de nouveau, c'est pas le montant de la dette qui m'inquiète, c'est l'impact budgétaire des taux d'intérêt qui montent, et ils ont monté énormément depuis l'arrivée de Trump, et donc l'impact que ça va avoir sur le financement des États.
Patrick Bolton, et ce sera le mot de la fin de cette émission, vous partagez ce point de vue pour le moins inquiet ?
Oui, si la montée des taux d'intérêt a lieu, ça va poser un problème à beaucoup de gens. Je pense que il faut regarder en dehors des États-Unis pour voir où les problèmes vont se poser. D'abord, déjà, la crise des pays émergents qu'on voit maintenant, c'est en partie la cause de la montée des taux d'intérêt aux États-Unis et de la montée du dollar. Ce qu'on voit se passer en Turquie, ce qu'on voit se passer en Argentine, ce qui se profile en Indonésie et au Brésil, c'est déjà la conséquence de ça. Et après, il faut regarder qu'est-ce qui va se passer en Europe. Et moi, la grande crainte pour l'Europe, c'est qu'est-ce qui va se passer au printemps 2019, sachant qu'on aura un autre président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, prendra sa retraite. Ça va créer un vide institutionnel énorme, une incertitude énorme. En même temps, on aura Brexit, qui peut se passer mal, et une crise politique italienne qui se profile, qui peut très bien éclater à tout moment, soit la semaine prochaine, soit dans 3 mois. Et ça m'inquiète beaucoup.
On est loin de la finance américaine, là. Mais vous nous invitez à faire beaucoup d'autres émissions, à revenir ici au lycée français pour enregistrer de nouveaux programmes, de nouveaux échos d'ici et échos d'ailleurs. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous quatre, Georges Jugeux, Jeff de Valdivia, Thomas Philippon, Patrick Bolton, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur ce qui se profile, sur ce qui s'est passé. Merci au lycée français de New York, en particulier à Marc Rognon et Pascal Richard, de nous avoir accueillis dans ce magnifique auditorium. Et à ce public, d'avoir été silencieux et patient pendant toute cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine, nous serons à Paris pour de nouvelles aventures économiques.